Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie. Ô Melmoth furieux. Un roman totalement dingue. Dingue d'être aussi perturbant, de réussir à nous plonger dans une réalité hors réalité, entre dystopie et tirage de cartes, anticipation, science-fiction, avec ce petit soupçon de magie qu'on aime tant. Le destin de l'humanité entre les mains d'une femme, fille, endeuillée par la mort de son frère, Mehdi, qui veut tout simplement faire brûler Euro Disney. Nous sommes ravis pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast de recevoir Sabrina Calvo. C'est parti. Et au fait, bonne année. Bienvenue Sabrina pour cette rencontre.
Salut.
Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui à l'occasion de la parution de ton sublime, incroyable, brillant roman Melmoth furieux. Et rien n'est exagéré dans ce que j'ai dit, puisque c'est vraiment un roman qui m'a émue, évidemment, bouleversée. J'ai lu d'une traite, je ne l'ai pas lâché. C'était pour la rentrée littéraire 2021, donc c'était il y a quelques mois maintenant. Il est en rupture de stock. Nous avons eu ce soir les derniers exemplaires. Il a quand même fallu jouer des coudes. Félicitations pour ça.
C'est la première fois.
C'est la première fois qu'un roman est épuisé.
Ouais, donc je suis assez contente. Ouais.
C'est hyper touchant parce que je me dis que c'est pas anodin. Parce que les mots qu'on y trouve et l'histoire qui y est racontée parlent en fait à ce qu'on vit, à ce notre époque, à ce qu'on espère, à ce qu'on tente de vivre dans un futur proche. Et quand ça rencontre, le réel rencontre comme ça, l'imaginaire, la fiction d'aussi près, en fait, c'est beaucoup d'espoir aussi pour les lecteurs et lectrices. Est-ce que tout le monde est aussi enthousiaste que moi à la lecture de ce livre, déjà? Est-ce qu'il y a une sorte de... Alors là, on peut l'avoir entendu puisqu'il est en rupture de stock, mais est-ce qu'en général, il y a quelque chose de bouleversant dans les retours de lecture?
Bon, déjà, il faut savoir qu'on n'est pas sur non plus sur des best-sellers. Hein. Attention, moi, je suis narco-couillant. Je travaille sur un truc bien spécifique et tout. Donc, on n'est pas non plus sur du gros succès, de best-sellers ou même en science-fiction. Ça va, je me plains pas. Moi, je suis content de pouvoir continuer à faire ce que je fais et d'écrire ce que j'ai envie d'écrire. Et voilà. Donc, on n'est pas sur des trucs de ouf comme ça. Oui, alors les retours sont extrêmement émouvants sur ce livre parce que je vais aller éteindre mon téléphone et le mettre en mode avion, mais après. Ce qui est étonnant sur ce livre, c'est que j'ai pas un retour qui est pareil, quoi. C'est-à-dire que tout le monde lit ce livre et tout le monde y trouve quelque chose de complètement différent. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est-à-dire que je sais ce que j'y ai mis et c'est quelque chose qui est très personnel et voilà. Et personne ne n'a vu ça. Tout le monde me dit, ah, j'ai vu ça. Ouais, super cool. Mais ça, vous l'avez pas vu? Ah non, tiens, maintenant que tu le dis, c'est vrai. Et là, je dis, ah merde. Donc c'est très émouvant de voir que c'est un bouquin qui touche beaucoup, beaucoup les gens tout de suite. Enfin, il n'y a pas de demi-mesure, quoi. C'est pas genre, ah ouais, c'est pas mal, ouais, c'est sympa, mais c'est cool. C'est genre, on est dedans, soit on est passé à côté complètement. Et il y a plein de gens qui sont passés complètement à côté du livre, quoi, qui n'ont rien compris, qui ne sont pas rentrés dedans, qui n'ont pas aimé politiquement ce que le bouquin représente. Hein. J'ai vraiment eu des agressions, pas physiques, mais j'ai eu des agressions verbales sur ce livre, vraiment, vraiment terribles, quoi, sur... Arrête avec ton char anticapitaliste, transféministe, woke, machin, qui tuer pour parler au nom de Belleville. Enfin, bref, des tas de trucs. Parce que comme j'utilise l'onirisme et que j'utilise la fantastique pour parler des sentiments, finalement, des fois, quand on fait du roman dit réaliste social, c'est-à-dire qu'on parle de lutte contemporaine réelle, solidaire, on a tendance à penser que on peut pas offrir de la poésie et de l'onirisme à ça. C'est-à-dire, on n'a pas le droit. Alors, par poésie et onirisme, je parle d'une poésie bien spécifique, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire un dégagé vers le rêve de quelque chose qui est vraiment sérieux, dangereux et qu'on vit là, maintenant, quoi. Sur les quoi, je suis pas du tout d'accord, en fait. Mais c'est ok, en fait, d'avoir cette réaction. C'est ok. Étonnamment, je crois que c'est un des rares bouquins où j'ai pris les critiques du livre avec autant de joie que j'ai pris les retours positifs, en fait, quoi. Parce que j'estime que, on est arrivé à un stade de notre réalité où prenez l'amour et prenez la dignité, la répartition équitable de la dignité humaine et la bienveillance et le partage des vulnérabilités, ça devient des trucs de bisounours, quoi. Et je pense que là, on est vraiment dans la merde si c'est le cas, quoi. Donc, est-ce qu'on peut entendre, en tout cas, la détresse des gens qui se hérissent contre ça? Je pense, ouais, il faut. En tout cas.
Mais c'est vrai que pour resituer un petit peu, parce que tout le monde ne l'aura pas encore peut-être lu. Donc, Melmoth Furieux, c'est une narratrice, une héroïne, fille, qui va nous emmener en fait dans sa quête de découvrir pourquoi son frère s'est immolé lors de l'inauguration d'Euro Disney. Donc, le début du roman, c'est ça. On se rend compte de la rage en fait qui l'anime, puisqu'elle est, elle tient pas en place en fait. Elle a perdu l'être qui lui était le plus cher au monde dans un geste qu'elle ne comprend pas pour le moment et qui en plus a eu lieu lors de cette inauguration, donc avec tout l'armada du secret de tout ce qui a été lui caché et qu'elle ne pourra peut-être jamais découvrir puisque c'était Euro Disney et qu'Euro Disney dans ce roman représente encore plus ce qu'on voit déjà dans notre société, mais en tout cas ce fameux grand capital, ce qui est représenté dans le roman par la figure de la souris, une sorte de figure très capitaliste, très pleine en fait, très entière, qui domine comme ça le peuple et qui renferme le secret du décès, des raisons du décès de son frère. Donc nous, on entre dans le roman par cette rage, par ce mot en plus de fille, de dire « mais moi, en fait, je vais continuer ton geste et je vais faire péter Euro Disney, en fait, je vais tout faire brûler. » Cet endroit-là de la narration, cette colère-là, va quand même rester majeur dans le livre. Enfin, on est face à quelqu'un, face à une femme qui boue, en fait, intérieurement. Et malgré tout, malgré toute cette colère qui est même nommée à plusieurs reprises avec un grand C, un C majuscule, enfin pour bien appuyer en fait ce ressenti, c'est un roman qui est extrêmement doux. Et ça me fait rebondir à ce que tu disais juste avant, la bienveillance, la douceur, la tendresse, qui sont en fait pour moi des émotions complètement anticapitalistes en fait. C'est-à-dire que c'est pas anodin en fait qu'on soit dans ces recherches-là en ce moment. En tout cas, dans les milieux militants, je le remarque beaucoup, et dans les féminismes énormément, on a besoin de se réapproprier ces termes qui sont complètement galvaudés en général par les autres, les médias notamment, etc. Mais de les utiliser comme nos armes de protection, nos armes de réparation, c'est un vrai mouvement en fait actuel. Est-ce que ça a été vraiment pour construire ce personnage de fille, cette utilité-là aussi, de sa douceur, son attention, sa bienveillance pour les autres personnages, la construction, en fait, qui est complètement à l'encontre, en fait, de l'image de la souris, en fait, qu'on a, évidemment, comme étant l'ennemi numéro un du roman, quoi.
Je pense que c'est déjà le mot de bienveillance, il est problématique pour moi. Je l'ai utilisé tout à l'heure parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu trigger chez quand on l'utilise. Mais j'aime beaucoup la notion de tendresse radicale. Je pense que c'est vraiment quelque chose. Alors en anglais, c'est le radical care, le soin radical, enfin le soin apporté à l'autre. Et pour moi, c'est un horizon, c'est une trajectoire. C'est pas quelque chose malheureusement qu'on peut pratiquer toujours aujourd'hui parce qu'on est des créatures contradictoires et qu'on est des créatures de pure sensible en fait. Et des fois, on est énervé quoi. Et des fois, on dit des choses qu'on ne doit pas dire. Et des fois, on est à côté de la plaque. Les gens ont besoin d'une certaine aide et nous, on n'est pas dans l'endroit où on peut aider à ce moment-là de cette manière-là. Et la manière dont on aide est mal prise en fait. Et je crois que l'acceptation de ces contradictions et l'acceptation de ces paradoxes, c'est inévitable. Moi, ce que je vois, c'est qu'en milieu militant, parfois, on a tendance à faire de ça un essentialisme aussi, c'est-à-dire de dire il faut absolument être bienveillant, il faut absolument être machin, ça, alors qu'en fait, on ne peut pas. Et dans le milieu queer, c'est saillant, quoi. On a l'impression que dans le milieu queer, tout le monde est polyamour, tout le monde est ouvert et tout le monde est bien, etc. Non, on a aussi des problèmes de jalousie, on a aussi des bails de violence, on a ces choses-là qui existent aussi, comme partout, quoi. On a du sexisme aussi internalisé, on a du racisme, enfin, il y a de tout, en fait. C'est juste que ce qu'on fait en ce moment, je pense, c'est qu'on est en train d'inventer des pratiques, on est en train d'inventer le futur. Et moi, c'est pour ça que je fais de la science-fiction. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé que ce que je faisais dans ma vie et dans mon écriture, c'était d'essayer d'envisager l'étape d'après, c'est-à-dire de dire, voilà, quand est-ce qu'on va sortir de cette espèce de course à la performance et de course à la rentabilité et à la compétition qui est en train de détruire ce qui nous reste d'humain, en fait, de vivant. Et alors, les gens disent, oui, alors le vivant, le machin, faut arrêter de vous planquer derrière tout ça aussi. Mais non, moi, je pense que c'est vrai, hein. Je crois qu'on est vraiment aujourd'hui des combattantes du vivant, quoi. C'est-à-dire, même si on aime notre téléphone portable, ça veut pas dire qu'on n'est pas des combattants du vivant, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire que le vivant? Ça veut dire le désir, quoi. Des créatures de désir. C'est-à-dire, on n'a pas envie de se mettre dans une case ou dans une autre. On a envie de continuer à désirer. Et on a envie de comprendre ce que ce moteur de désir-là, quelles sont les pratiques qui permettent pas d'encadrer, mais en tout cas d'accompagner ce désir vers l'autre pour ne pas le violenter, pour ne pas l'approprier, et surtout se l'approprier, parce que vraiment la question de l'appropriation, elle est au cœur du capitalisme, quoi. Et je crois que tout le livre tourne autour de cette question d'appropriation, quoi, de l'autre, en fait. Je vous parlais tout à l'heure de ce que les gens ne voyaient pas dans ce livre. Et pour moi, c'est une histoire d'amour, ce livre. Et c'est une histoire d'appropriation de l'autre et de comment est-ce qu'on lutte contre les injonctions de vouloir absolument posséder l'autre, de lui dire il faut, si tu m'aimes, alors il faut que tu. Et les filles qui essayent, ben, ils n'y arrivent pas forcément, quoi, non plus, quoi. Et je pense que, quelque part, moi, j'ai été quelqu'un de très en colère, et je pense que je suis quelqu'un encore de très en colère, mais je pense que j'ai appris. J'ai pas appris la tendresse. Oui, bien sûr que j'ai énormément de tendresse pour plein de choses, que je suis une créature, j'ai trop d'amour, je sais pas quoi en faire, quoi. Mais je crois que ce que j'ai appris, c'est surtout la patience. Et je crois qu'en fait, on voit pas la temporalité dans l'amour et on voit pas la temporalité dans la relation. Et ce qu'il faut, c'est vraiment voir la temporalité. C'est-à-dire, on est toujours en train de se dire que ce qui nous arrive, c'est ce qui va nous arriver pour toujours ou c'est ce qui va définir pour toujours une relation, alors qu'en fait, on sait très bien que tout évolue et que tout change et que tout passe. Et accepter ça, que le désir se transforme et que le désir, c'est une créature en forme de nymphe qui change d'avis, quoi. Comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans son mouvement, finalement, de changement, avec beaucoup de tendresse, quoi, de dire, bah ouais, mais parce qu'on est toutes comme ça, quoi. Et donc ça, c'est un premier élément de réflexion. Le deuxième élément de réflexion, je pense, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la vulnérabilité, c'est que je crois qu'au cœur, le truc, c'est que le texte, il est pas sur Euro Disney, il est pas sur Disney lui-même. Euro Disney, c'est juste le vrai ennemi du bouquin, c'est pas Euro Disney, le vrai ennemi du bouquin, c'est un truc qui s'appelle la métrique. Et la métrique, c'est la mise en mesure du monde, c'est-à-dire nos petites cases, nos petites statistiques, nos petites maisons, avec nos petits écrans. Et c'est la réduction, en fait, en cases et en carrés, de plus en plus. À un moment donné, elle le dit, nous sommes des mouchoirs de, nous sommes comme des petits rats dans des mouchoirs de poche, dans des mouchoirs de poche, dans des mouchoirs de poche, quoi. Et je pense que la vie, c'est ce qui s'échappe de ça. Et je crois qu'au cœur de cette métrique, qui est donc la collusion entre l'entertainment, c'est-à-dire le fait, ferme ta gueule, on prend en charge ton imaginaire et ta spiritualité, et la mise en mesure du monde, qui est la société de surveillance et de répression, que les deux qui sont en train de s'assembler en ce moment sous nos yeux, on ne le voit pas encore, le bouquin montre juste l'étape d'après, quoi, c'est-à-dire le moment où la société de surveillance va mettre un masque de Disney, quoi. Ça, c'est bâti sur une fondation très claire du capitalisme, qui est notre monde se mesure. Donc s'il se mesure, ça veut dire qu'il se compare. Donc s'il se compare, ça veut dire qu'on est capable de faire des hiérarchies. Et à partir du moment où on fait des hiérarchies, on est capable du racisme, du sexisme, de la transphobie, du validisme, tout ce que vous voulez. Donc il faut s'attaquer aux racines de ça, quoi. Donc il faut s'attaquer à l'appropriation, quoi. Et la comparaison. Et ça se fait sur un rapport de force. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on met en rapport nos forces. Mais si on commençait par mettre en rapport nos vulnérabilités, qu'est-ce qui se passerait, en fait? Parce que le truc, c'est que la construction, quand on dit nous, aujourd'hui, c'est quoi le nous? Est-ce que le nous, c'est pas l'acceptation qu'en fait on est toutes pétées, quoi? Je suis pété, vous êtes pété, quoi. Tout le monde est broken là, hein. Je veux dire, la vie nous a pris. Et même quand on est jeune, surtout quand on est jeune. Et donc, du coup, accepter que l'autre il est pété comme nous, déjà de base, c'est déjà comprendre que ben, quelque part il y a un espace de, ben oui, de consentement, d'appréciation du consentement, de discussion, de pardon, énorme, énorme, mon Dieu, terrible, de pardon. Parce que le pardon, c'est précisément l'endroit où l'appropriation ne se fait plus, quoi. C'est, t'as couché avec quelqu'un d'autre, je te pardonne, c'est pas grave, quoi, tu vois. Et même si t'as envie de cette relation, c'est pas grave, je te pardonne, vas-y. Parce que ça te fait du bien, et je suis contente pour toi que ça te fasse du bien. Et mon désir, c'est de te rendre heureuse, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment avec ça qu'on travaille. Maintenant, ça veut pas dire qu'on est parfaite, et ça veut pas dire qu'on y arrive, en fait. Parce que le moment même où on créera une société du nous basée sur l'échange de l'acceptation et l'échange de vulnérabilité, on va la sédimenter, on va la structurer. Et ça sera plus de la vie, parce qu'elle séchera pas plus. sera la mise en mesure de vulnérabilité. Et là, on est dead. Et on voit déjà ça à l'œuvre par le capitalisme lui-même, qui a utilisé le bien-être et le self-care, par exemple, comme étant des outils de justification de ses propres abus, quoi. Ah ouais, tu bosses 12 heures par jour et t'es crevé, bah c'est pas grave, tiens, vas-y, prends ton bon pour faire du yoga, quoi. Puis fais-toi ton bain à machin, et puis ça ira mieux, et puis tu pourras repasser au taf demain à la machine à café, te faire chier toute sa journée, quoi. Donc, il faut faire attention à ça aussi, c'est-à-dire le moment où nos pratiques ne deviennent pas des alibis aussi pour continuer une perpétuation hiérarchique bah, qui va nous empêcher de vivre, en fait, tout simplement.
Et c'est vrai que face de ce fait, en suivant, on essaye de ne pas faire de spoiler, d'accord ? On est vraiment très respectueuse de ça, mais on va vous parler d'ambiance plutôt dans le livre. Et donc, en effet, il y a ces premières parties où on découvre Phi. Et on découvre aussi, puisque comme tu l'as dit, le cœur du roman n'est pas du tout Euro Disney. On va pas découvrir ce pan-là de la vie, du roman. C'est pas intéressant d'y aller. Enfin, on sait bien que c'est pas intéressant d'aller par là-bas. Par contre, ce qui est génial, c'est de voir comment ce peuple qui vit, qui revit, qui survit à Belleville, puisque là où se situe tout le roman, va créer des choses un peu différentes de ce que nous on connaît, et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui peut être de l'ordre de l'anticipation ou de toute cette bulle d'imaginaire en fait du roman, c'est d'aller montrer comment Phi au cœur de son groupe va avoir des réactions parfois attendues, des choses où elle va réfléchir sur la façon d'être avec les autres personnes autour d'elle, et il s'avère, mais alors ça c'est assez drôle parce que moi à la lecture je m'en étais pas forcément rendu compte, qu'elle est entourée d'enfants, en fait, de jeunes personnes. Pour moi, je les avais tous mis et toutes mises au même âge. Enfin, j'ai pas fait, sauf un ou deux personnages qui sont marqués dans le roman comme étant plus jeunes. Mais sinon, pour moi, c'était une grande bande qui faisait comme ils pouvaient, en fait, pour recréer des vies, pour recréer des atmosphères. Et ensuite, j'ai lu ce terme magnifique de une croisade d'enfants. Et ça, ça a fait tellement appel à un imaginaire, là, pour le coup, historique, en fait, des enfants et des jeunes qui sauvent le monde. Je me suis dit, oh là là, encore une dimension autre. Donc, je suis ravie, je vais relire le livre après. Donc, je suis ravie de maintenant l'avoir avec ça en tête. Mais toute la construction, en fait, du quotidien de Phi, qui a l'air quand même assez éprouvant, assez... tes mots nous emmène dans un imaginaire assez foisonnant, en fait. Il y a quelque chose... elle est en squat, elle change d'endroit de vie, elle recrée avec ce qu'elle trouve là où elle est, avec ce qu'elle peut acheter, etc. Et en même temps, on n'est pas en train de parler de précarité, de pauvreté, de manquer de choses, parce qu'ils arrivent à faire des merveilles, en fait, avec ce qu'ils trouvent sur les endroits dans lesquels ils vivent. De créer cette société-là, c'est parti de quoi ? Cet imaginaire-là de vivre autrement les uns avec les autres dans un endroit qui actuellement est très urbanisé et très est un quartier, un vrai quartier de Paris, quoi, enfin, qui n'est pas une pure imagination pour le coup.
Bah moi je suis parti de ma vie, hein. C'est pas compliqué, hein. Moi, de toute façon, tous mes livres sont autobiographiques, hein. J'ai pas de... le précédent est autobiographique, celui d'avant est autobiographique, celui d'avant est autobiographique. Donc je fais que j'écris que sur ma vie, en fait. Et alors bon, on me traite de de connasse, élitiste, égocentrique, et j'assume, hein. Absolument, je les emmerde. Parce que pour moi, c'est ce que je raconte, c'est ce que j'ai raconté, c'est mon expérience de personne. Une personne queer, pour faire rapide. Je dis ça parce que, bon, après, on peut mettre des nuances là, ou qu'est-ce que ça veut dire queer, machin. Je préfère dire ça parce que pour moi, la culture queer aujourd'hui, c'est une culture qui vraiment propose, dans la pratique, des méthodes très concrètes de construire le futur, en fait. Et de survie communautaire, mutualisée. Voilà. Moi, j'ai pas été précarisé dans ma vie. Je viens d'une famille de la middle class française, pas bourgeoise, parce que mes parents n'ont jamais profité de personne, hein, mais c'était des gens qui, profession libérale, on va dire, qui avaient un peu d'argent et qui ont mis leur argent, qui travaillaient beaucoup, qui ont fait que ça de leur vie, hein, travailler. Et qui, pour nous donner une éducation une vie confortable. Voilà. Et ils ont réussi. Et ils nous ont, moi aussi, inculqué des valeurs très fortes de vie. Moi, j'ai été élevé dans une famille judéo-chrétienne très ouverte, et où la question de la foi était vraiment quelque chose de très généreux, c'était pas du tout quelque chose de dogmatique, c'était pas lié à une église ou quoi que ce soit, c'était vraiment lié à l'âme pure et à la gentillesse, quoi. Et c'était très beau. Et donc, du coup, quand moi, je suis arrivé en âge, à l'âge adulte, en fait, enfin, de naissance, plutôt, que j'ai pu m'émanciper, ben, je me suis émancipé par l'art, très vite, parce que mes parents m'ont soutenu aussi, là-dedans. Et même si je viens pas d'une famille d'artistes, voilà, et du coup, j'ai pu expérimenter beaucoup de choses dans ma vie, énormément. Et j'ai pu expérimenter la vie, en fait. Alors, je suis pas parti en Inde. Oui, j'ai fait mon voyage en Inde. Non, je suis pas parti en Inde. Et en fait, les gens me disent, oh, tu devrais faire du Benji, tu sais, du saut à l'élastique, tu verrais, tu te sentirais en vie, machin. Je dis, mais attendez, moi, je fais de la poésie depuis que j'ai 12 ans. C'est bon, quoi. Me sentir en vie, c'est bon, quoi. Je gère, quoi. J'ai mon cœur qui bat à 2000 à l'heure tous les jours, quoi. Donc, ça va. Je me sens bien en vie. Donc, j'ai pu faire l'expérience de la vie. Et je me suis rendu compte très, très vite que moi-même, j'étais une connasse, quoi. C'est-à-dire que moi-même, j'étais dans l'appropriation de l'autre. Moi-même, j'étais dans la production de schéma bourgeois de vie, à la fois dans l'art et à la fois dans la relation à l'autre. Et chaque fois, j'ai pu le péter. Et c'est en pétant, c'est en m'autorisant à créer des cadres et en pétant des cadres et en me réinventant, parce que moi, j'ai eu 2000 vies, hein, moi, j'ai 47 ans, hein, donc j'ai beaucoup vécu déjà. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Je te parlais de Lille, j'ai vécu 7 ans ici, quoi, tu vois, et j'avais une vie qui n'était pas très cool ici, quoi. Donc j'ai eu beaucoup de vie, j'ai eu beaucoup d'expérience, et chaque fois que je changeais d'expérience, je pétais la vie d'avant, en fait, et je reconstituais tout, de from scratch, systématiquement. Alors, des fois, j'ai terminé en squat, parce que des fois, j'avais plus rien. Du coup, j'avais plus de taf, j'avais plus rien, et donc, du coup, j'avais que ma poésie, et donc, comme je te dis, mes bouquins ne vendent pas non plus, c'est pas des best-sellers, quoi, donc, compter sur 5000 balles par an pour vivre, c'est chaud, quoi, et moi, j'ai zéro droit, quoi, tu vois, en tant qu'autrice, c'est... Donc, du coup, je réinventais tout, et puis je reconstruisais tout. Donc, c'est déjà ma manière d'appréhender le monde, c'est-à-dire par mon désir et par mon désir de vie et mon désir d'aller là aussi où est mon cœur. Souvent, c'était je me déplaçais là où j'avais des gens qui m'aimaient et que j'aimais, quoi. Et du coup, je pense que j'ai cette logique-là. Alors, ensuite, il y a Belleville. Belleville, c'est un endroit où je vis en ce moment, depuis 3 ans. La période où j'ai écrit ce livre, d'ailleurs, je l'ai écrit à Belleville. Je l'ai écrit à Belleville, ce livre. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce qu'au début de l'écriture du livre, avant que j'arrive à Belleville, il se passait à Disneyland, le livre. Il se passait à l'intérieur de Walt Disney, quoi. Et c'était chiant, on me crevait, quoi. Et t'avais raison. Et c'est en arrivant à Belleville que j'ai compris qu'en fait, l'intérêt, c'était Belleville qui regarde. En fait, il y a un truc qui est assez fun à Belleville, c'est que quand on est sur la 5e marche de l'escalier gauche du parc de Belleville, il y a une trouée dans les arbres et on voit la Défense. Et c'est genre le magicien d'Oz, quoi. C'est vraiment genre, on voit les tours et tout avec les constructions. C'est flippant comme vision, quoi. Vraiment, la vision, elle est dans le livre, quoi. Et à un moment donné, je sais plus où ils sont à Télégraphe, donc il y a le point le plus haut de Paris. Et ils regardent de l'autre côté et ils voient Marne-la-Vallée et ils voient la même chose à Disneyland, quoi. Et j'avais mis vraiment en parallèle la Défense à Disneyland parce que je pensais que c'était deux parcs d'attractions pour adultes pas cool, quoi. Et quand je suis arrivé à Belleville, je me suis intégré au tissu solidaire de Belleville, ce que je n'avais pas fait avant quand j'étais à Montréal et que j'écrivais sur la commune de Montréal, parce que j'étais encore dans un espèce d'anarchisme individualiste, un petit peu genre ouais, mais voilà, moi je suis autrice et donc je peux me permettre de regarder ça d'un peu loin, le cyberpunk, tout ça, la science-fiction, tout ça. Je suis pas vraiment impliqué, quoi. Belleville, j'étais obligé de m'impliquer, en fait, j'ai pas eu le choix. Et donc du coup, je m'étais déjà impliqué avant, quand j'étais plus jeune, dans des mouvements politiques un peu plus durs et tout. Mais c'était toujours par le prisme de l'art. Là, non. Là, je suis rentré dans une cantine solidaire à Belleville, je suis rentré dans une retoucherie de couture. Donc ça a été mon expérience. Et pareil, il y a 2 ans, j'ai repris la couture. Moi, j'ai été élevé par ma grand-mère je voyais souvent ma grand-mère, et qui était grande couturière, et je vivais dans son atelier avec elle, quoi. J'adorais ça, quoi. J'étais tout le temps fourré là-bas. Donc, j'ai appris à dessiner dans son atelier, j'ai appris à coudre dans son atelier avec elle, j'ai appris à la regarder mettre des robes sur ses clientes et tout, et c'était passionnant. Et j'ai zappé ça à 12 ans, parce que j'ai dit à mes parents que je voulais être couturière, ça m'a très mal passé. Si j'avais dit couturier, peut-être que ça serait peut-être un peu mieux passé. Et du coup, j'ai repris la couture il y a 2 ans et demi, je crois, 2 ans, je trouve ça, 2 ans et demi, un tout petit peu avant le confinement. Et j'ai lié cette pratique de la couture à Belleville aussi, au truc solidaire, et tout ça c'est venu, quoi. Et fille, en colère, c'est aussi moi, parce que à ce moment-là, j'étais en colère pour plein de trucs. J'étais en colère parce que, du coup, quand le confinement est arrivé, en tant que féministe et en tant que transféministe, j'avais l'impression que, juste avant le confinement, on était à 2 doigts d'une révolution, quoi. On y était, hein, on était pas loin. Hein. On était des centaines de milliers dans la rue, 3 mois avant le confinement, hein. C'était un truc de malade. Et donc j'étais hyper vénère, quoi. Et j'étais vénère contre moi-même aussi, parce que moi-même j'avais des réflexes aussi cons dans mes couples, voilà, j'étais pas au bon endroit non plus, donc j'étais énervé contre moi, j'étais énervé contre la société, voilà. Donc je me suis servi de tout ça, quoi. Et en fait, je crois que c'est vraiment le bouquin le plus personnel que j'ai jamais écrit, hein, vraiment. Et alors que j'ai écrit des bouquins sur la transidentité, j'ai écrit des trucs qui sont vachement plus proches d'une certaine manière de ma... Mais en fait, celui-là, c'est vraiment le moment où... je me suis littéralement écrit, quoi. Je me suis dit, juste, va pas chercher trop loin. Voilà, je crois que je me suis rajeuni de 10 ans, mais...
C'est C'est un détail.
Par frivolité, parce que je suis une modasse de merde. Et mais c'est tout. Vraiment, je n'ai pas changé grand-chose au personnage. Juste, je et donc, du coup, là, j'arrive aux questions des enfants. J'ai pris un grand détour, excuse-moi, parce que j'ai répondu à toutes tes questions. Là, parce que, c'est qu'en fait, je ne vis pas avec des enfants, évidemment. Je vis avec des gens plus jeunes, ça, c'est certain. Parce que les gens de mon âge m'emmerdent, en fait. C'est horrible à dire. Je, la plupart, ils me parlent de leur maison, quoi, et leur bagnole. Et je suis là, je me dis, fuck les bagnoles, quoi. Et fuck vos maisons, quoi. Enfin, vraiment, quoi. Et je comprends. Je veux dire, c'est pas grave, quoi. Et il y a des gens que j'adore. Moi, j'ai plein de potes qui ont leur maison et tout. Je vais dans leur maison. Et je suis ravi d'être là, etc. C'est juste que dans mon quotidien, c'est pas un jugement que je fais, hein. Attention. Vraiment pas. Parce que j'ai pas envie de condamner des gens qui ont besoin de ça et qui ont envie de ça. Et c'est ok. Normalement, tout le monde devrait avoir droit à ça, en fait. Y a pas de raison. C'est ok. Ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon quotidien, c'est pas ça qui m'intéresse. Voilà, moi, je m'intéresse à la poésie, je m'intéresse à la couture, je m'intéresse à la beauté, je m'intéresse aux relations, je m'intéresse au post-rock, je m'intéresse au post-punk, c'est ça que je m'intéresse. Moi, j'ai pas grandi, enfin, moi, j'ai comme si j'étais Kéblo à 15 ans, enfin, 16 ans, quoi, j'ai jamais grandi depuis, quoi, vraiment. Et ce qui est fun, c'est que je crois que parce que, justement, je suis arrivé à ce degré d'adolescence extrême, que les pratiques féministes, transféministes et queer m'ont permis, en fait, de dire, bah, c'est ok, en fait, on peut continuer comme ça. Je vais pouvoir continuer comme ça toute ma vie, en fait, c'est ok. C'est pas un problème. J'ai pas besoin de me ranger. Je veux pas faire de la bourgeoise, je veux pas me ranger là-dedans, j'ai pas, de toute façon, j'ai pas l'argent pour. Est-ce que je suis précaire? Bah, en tant qu'artiste, on l'est un peu quand même. Et en même temps, on n'est pas non plus précaire. On n'est pas non plus des gens qui savent. Je veux dire, je peux pas me comparer à des gens qui t'en chient vraiment. Moi, j'en chie. Je galère, mais je galère pour plein de choses que j'ai choisies dans ma vie. Et je galère aussi parce que je suis artiste et parce que, bah, du coup, bah, voilà, quoi. Aujourd'hui, être artiste et pas se conformer à des choses et avoir la prétention de dire j'ai une voix et je fais les choses pour moi et je fais pas les choses pour un public. Bah, c'est chaud, quoi. C'est chaud parce que même moi j'ai envie de vivre au fond de moi-même. Ma contradiction, c'est que j'ai envie de vendre des livres aussi, quoi. Comment est-ce que je me positionne vis-à-vis de ça? Pourquoi est-ce que je publie un livre comme ça si vraiment le profit, j'en ai rien à battre, quoi? Je suis un peu hypocrite, en fait, quoi. Mais bah oui et non, c'est-à-dire que ouais, je suis hypocrite, mais j'accepte d'être hypocrite et j'accepte aussi d'en faire un sujet parce que je pense qu'on se débat toutes et toutes avec des injonctions de ce type-là, quoi. Et que la réconciliation des contradictions, c'est peut-être au cœur de notre futur aussi, quoi. Arrêter d'essentialiser des positions comme ça, idéologiques, en disant je suis ça plutôt qu'autre chose. Bah non, t'es ça maintenant, puis demain tu seras autre chose, et puis peut-être que tu seras autre chose, et puis voilà, quoi. La seule chose que je peux vraiment dire aujourd'hui de ce que je suis et qui me semble être importante, c'est cet anarcho-féminisme-là qui me semble être très important, parce qu'il dit deux choses. Il dit l'appropriation et il dit l'égalité, quoi. La non-appropriation et l'égalité. Et ça, c'est ce dont on a besoin maintenant. Peut-être que quand on l'aura, on passera à autre chose. Mais ce dont on a vraiment besoin maintenant, c'est ça. Et c'est les deux vont ensemble, en fait. On peut pas, je peux pas envisager féministe, c'est pas anarchiste, par exemple. Pour moi, c'est pas possible, en fait. Parce que si à partir du moment où on nie la hiérarchie, c'est-à-dire on parle d'égalité vraiment, à ce moment-là, on nie la hiérarchie, on pète la hiérarchie, quoi. On y va, quoi.
En fait, c'est un peu un programme politique, hein, ce livre.
Ah, mais complètement. Ah non, mais moi j'écris. Mais non, mais c'est pas un programme politique parce que j'ai pas envie de me représenter. Je suis un artiste, quoi. Je suis pas. J'ai récemment eu quelqu'un avec qui je travaillais qui m'a dit: mais enfin, Sabrina, si tu veux faire de la politique, engage-toi dans un parti. Putain, mais mec, mais sérieux, quoi. Qu'est-ce qu'il me raconte, quoi. Faire de la politique aujourd'hui, c'est créer du lien entre les gens, c'est se donner de la poésie, c'est écouter de la poésie, c'est se donner de la beauté, c'est de voir où c'est qu'on peut créer des dégagements, où c'est qu'on peut créer des nouvelles pratiques, où c'est qu'on peut dire aussi je te pardonne, où c'est qu'on peut dire je suis une merde. Là, j'ai déconné. Voilà, je suis une merde. C'est ces choses-là, en fait, qu'on peut faire aujourd'hui en termes de politique. C'est est-ce qu'on est capable de créer des communautés de soutien, d'entraide, de mutualisation, est-ce qu'on est capable de travailler à l'intérieur des communes en des maillages très fins de liens et d'activer des liens entre des gens qui n'ont pas envie de ça, quoi. Et le problème, c'est que malheureusement, il y a plein de gens qu'on a envie qui ne peuvent pas. Et nous, on est là, des fois, on se met dans notre posture, on juge. Ouais, mais au moins, on est cool. Ouais, mais enfin, non, en fait, on n'est pas cool, quoi. Donc non, c'est pas un programme politique. C'est un livre politique au sens où c'est un livre qui parle de comment on organise notre quotidien pour vivre ce nous, quoi, qui devrait exister en fait, qui devrait pas exister au nom d'un parti politique ou quoi que ce soit, mais qui est ce nous de la vulnérabilité, quoi. Alors au moins d'essayer de le faire surgir. Mais enfin, je suis pas la seule à proposer des choses comme ça. Il y a plein de gens qui réfléchissent à ça en ce moment, spécialement dans le féminisme, dans le transféminisme. Donc je crois que je m'inscris tout simplement dans une logique de poétique du quotidien, quoi. Donc, est-ce que c'est pas ça de la politique? Je sais pas, peut-être. Tu vois.
Mais c'est un autre endroit qui peut-être être plus accessible aussi. C'est-à-dire que on peut, au détour d'un roman, de poésie, de l'art en général, en fait, rencontrer des engagements, rencontrer des pensées qu'on n'avait peut-être pas vu venir, ou des choses qui nous bousculent, qu'on n'avait pas encore précisées. Enfin, en tout cas, en tant que libraire ici, je trouve que on peut être davantage bouleversé dans sa vie profonde par un art qui va toucher des choses de l'ordre de la fiction, de l'imaginaire, etc., de la poésie, que d'aller acheter l'essai où on a déjà fait un petit chemin vers cet essai. Ceci, on achète un essai sur la non-violence et qu'on est déjà sur le chemin de la non-violence. Quand on est surpris ou surprise par un roman, par une poésie, par une pièce de théâtre, par... En fait, j'ai l'impression que ça vient toucher un autre endroit qui est de l'ordre du très privé, du très, très intime. Mmh. Enfin, en tout cas, moi, ça marche comme ça. C'est-à-dire que ce roman m'a fait plus d'effet que peut-être tous les essais politiques du monde, en fait. Parce qu'à un endroit, en fait, j'y ai vu de la magie. J'y ai vu ce petit soupçon, en fait, d'incongru, de singularité que j'attendais pas. En fait, tout simplement, que j'attendais pas, n'étant pas une lectrice peut-être de la Volte en général ou de science-fiction en général. Ou... En fait, j'ai été à un endroit qui m'a surprise. De réflexion, d'émotion, de... Toute l'idée de la bousculade, je l'aime bien, parce que c'est un endroit où, en fait, ça nous sort de notre zone de confort. Pourquoi est-ce que Fille m'a tellement touchée? Pourquoi sa rage n'a pas été ce qui m'a envahie? Mais plutôt tout l'amour, tout le... Et cette tendresse qui est hyper politique, je suis hyper d'accord avec tout ce que tu dis, c'est que, en fait, on a besoin de personnages de fiction pour s'incarner soi-même. L'endroit poétique dont tu parles beaucoup, cette poésie-là, c'est un endroit qui est hors du réel, un petit peu. C'est à côté, en fait. C'est un chemin de travers, c'est un pas de côté, c'est vraiment ça. Et c'est ce qui illumine, c'est ce qui fait... qui sublime un petit peu, et largement, pas un petit peu, largement, notre réalité qui, parfois, on a le nez dedans, quoi, on voit pas toujours ce qui s'y passe. Et je me dis, la fiction, c'est peut-être ce qui est le plus accessible pour faire des grands bouleversements. Et donc, quand je dis c'est un programme politique, évidemment, c'est pas direct, ça, c'était une blague, mais c'était pas direct en mode c'est un parti politique. Mais et pourquoi pas, en fait? Pourquoi est-ce qu'on ne se dirait pas qu'on va révolutionner ce monde par les arts, la culture? Enfin, moi, je suis un peu... Je crois que j'ai besoin beaucoup d'espoir et de... Les utopies féministes, c'est quelque chose qui peut être une vraie solution, moi, j'ai l'impression. Parce que on voit bien que dans le réel, tout ce qu'on nous met dans la tête depuis des mois et des années, et des mandats, et... Enfin, on pourrait vraiment être désespéré, quand même, non?
C'est rigolo, mais il y a une image que j'aime bien quand je pense à ça. C'est le fait qu'en fait, il y a un truc qui nous touche vraiment toutes et tous ici, c'est quand on dort la nuit, en fait, et qu'on est tous dans ce moment de vulnérabilité absolue quand on dort, en fait. Et je trouve ça très beau de partager ces rêves-là, en fait, de travailler sur cette intimité du rêve, en fait. Moi, j'écris des choses très intimes, toujours. Donc, je parle de moi, oui, c'est égocentrique peut-être, mais c'est juste ma matière, c'est la matière avec laquelle j'ai choisi de travailler. J'ai pas choisi de travailler avec la politique du monde ou avec ma connaissance de tel truc historique ou quoi que ce soit. Non, j'ai décidé de travailler avec ma matière émotionnelle parce que j'estime que j'ai eu la chance dans ma vie d'avoir la place pour ça. Émotionnel et spirituel, les deux. Je suis quelqu'un d'extrêmement spirituel, moi. Je dirais pas que je suis croyante parce que je crois pas, je sens. Voilà. Mais je suis une sentante, enfin, je suis une sensible, quoi, je sais pas. Et, je suis quelqu'un de très spirituel. J'ai pas de problème avec ça. Donc, du coup, je me suis servi de ça. Je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est ça ta matière, en fait. Ta matière, c'est pas de parcourir le monde pour parler de machin, ou pour analyser un problème sociologique, ou pour dire machin. C'est de parler de moi, ce que je ressens. Et le truc, c'est que je travaille beaucoup avec mes rêves, je travaille beaucoup avec mon monde intérieur, et tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. J'ai pas envie de faire une comparaison du tout, hein, statistique, mais dans ma vie, je suis très influencé par Virginia Woolf, et parce que Virginia Woolf faisait exactement la même chose. Alors, elle avait des aspects moins fantasmagoriques, parce qu'elle était beaucoup plus ancrée dans la nuance, quelque part, labyrinthique de ses émotions. Moi, je suis plus dans... Virginia Woolf touche au sublime, moi, je ne fais que regarder le sublime de loin et dire, oh, il y a du sublime là, c'est beau, quoi. Tu vois, ça m'émeut. Mais bon, moi, je suis pas sublime, quoi. Et donc, du coup, je crois que, pour moi, la question politique, elle vient donc de l'intimité. Elle vient de cette révolution, en tout cas, de cette capacité de faire face à son intime, de capacité de se réinventer, de cette capacité de travailler avec son intimité pour pouvoir transformer les choses, transformer l'autre, se transformer soi-même, et donc transformer la société. Ça, c'est une première chose. Donc, j'ai tout de suite compris que ce qui m'intéressait, c'était la fiction. Que j'étais pas capable de produire une pensée cohérente, déjà, demander de produire une pensée cohérente, déjà, c'est chaud, puisque je passe mon temps à décorréler tout le temps ma pensée. Je veux dire, là, je suis là devant vous ce soir, mais ce que je vous dis ce soir, je l'ai pas dit souvent. Enfin, je veux dire, je réinvente chaque fois que je prends la parole, ou chaque fois que j'ai une performance, ou quoi que ce soit, je ne répète jamais ce que je dis. J'essaie toujours d'aller plus loin. C'est-à-dire, bon, bah, hier, j'ai dit ça. Eh bien, maintenant, peut-être que je vais dire autre chose. Parce que, enfin, pas autre chose, mais je vais dire peut-être que là, ce que j'ai dit, c'était vraiment, en fait, c'était pas très juste. Je vais vous le dire encore mieux, un peu mieux, quoi. Et c'est pour ça que c'est difficile pour moi d'être documenté. C'est un peu comme mon visage, c'est pareil, je change tout le temps. Et du coup, j'aime pas qu'on prenne en photo, par exemple, parce que, bah, voilà, des fois, je suis plus cette personne, quoi. Et du coup, ben, je crois qu'il y a la volonté de mettre de la fiction, c'est de la volonté de dire, d'accepter aussi que le contact avec le sens se fait à travers la narration, quoi, se fait à travers les histoires. Et l'histoire qu'on se raconte. C'est-à-dire les mondes imaginaires qu'on invente pour pouvoir faire sens de choses qu'on sent et qu'on voit. Les rêves, quand ils arrivent, les rêves, on les voit pas tels qu'on s'en souvient, hein, pas du tout. C'est en fait, c'est au réveil qu'on les reconstruit par fragments et qu'on leur donne un sens logique. Mais quand on en fait l'expérience des rêves et quand on travaille un peu avec le rêve conscient, attention, pas avec le rêve lucide, hein, c'est-à-dire je suis pas dans le contrôle du rêve, mais je suis plutôt au plus près de l'observation de ce qu'on se dit à nous-mêmes, ce qu'on se chuchote à nous-mêmes quand on dort, en fait. En fait, on voit bien que la narration, c'est quelque chose qu'on va mettre bout à bout à la fin pour pouvoir faire sens de cette incohérence totale qu'on a eue, quoi. Et donc, du coup, c'est ce que j'essaye de faire modestement. C'est-à-dire que moi, j'ai des visions, j'ai des rêves, des machins, je crée des fictions pour pouvoir mettre bout à bout ces choses-là qui accompagnent ma vie en temps réel. Moi, je structure pas mes livres. J'ai pas de plan. Je sais pas ce qui arrive dans mes livres, en fait. J'ai un point de départ, j'ai une trajectoire. Là, en l'occurrence, je savais que j'allais brûler Disney. Mais je me disais, vas-y, quoi. Vas-y, meuf. Déterre à fond. Mais j'avais pas du tout je savais pas du tout comment j'allais y arriver. Je savais rien, en fait, quoi. Et c'est bout par bout des choses que je vis dans ma vie et des choses que je réinvente et que je vois et les patterns et les trucs. Et mis bout à bout, en fait, je crée une histoire avec parce que si je les mettais de manière en pensée, ça aurait une cohérence. Mais en même temps, en termes d'accessibilité, alors oui, effectivement, peut-être que c'est plus potent qu'un truc où on a déjà la démarche d'aller chercher et qu'on s'attend pas à trouver dans un bouquin de science-fiction, de propos comme ça, quoi. Mais en même temps, je suis pas la personne la plus accessible du monde non plus, quoi. Je veux dire, il y a plein de gens qui restent complètement sur le carreau dans mon livre, quoi, et qui disent, mais attends, mais je comprends rien de ce que t'écris, quoi. Rien du tout, quoi. Pour moi, c'est inaudible. Alors que, moi, j'ai l'impression que c'est un bouquin qui est assez accessible, comparé à d'autres que j'ai écrits avant, qui étaient pour le coup, mais d'une opacité ésotérique absolue, quoi. Et il y a des gens qui me disent, c'est ton bouquin le plus complexe, quoi. C'est ton bouquin le plus opaque. Je dis, what the fuck, quoi. Mais je ferme mon ventre et je te mets là, quoi. Il n'y a rien d'opaque. Il n'y a pas de secret dans ce livre. Il n'y a rien qui est caché. La seule chose qui est un peu cachée, c'est le personnage de Villon, et c'est normal qu'il soit caché. Mais c'est pas le vecteur. C'est pas à travers lui que se fait la narration. C'est une observation. La narration se fait dans l'observation de ce personnage. C'est pas à travers lui. Jamais. Donc je suis pas la personne la plus accessible du monde. Mes bouquins sont pas accessibles, mes bouquins sont extrêmement violents, sont extrêmement déstructurés, sont extrêmement ça part dans tous les sens, ça dit ce qui c'est déjanté, c'est machin, alors que moi j'ai l'impression que ce bouquin c'est une ligne droite, quoi. Sérieux. Enfin je veux dire, c'est des gens qui sont dans un truc, et puis il y a des gens qui arrivent et qui leur tapent dessus, ils s'organisent et puis après ils font. Il y a, en termes de structure, il n'y a rien, et il y a des gens qui me disent, oh mon dieu, alors cette scène, ta structure narrative, elle est complètement folle, on n'a jamais vu ça. Enfin, je sais pas, quoi, je vois pas le truc. Donc à la fois oui, je me planque derrière la fiction pour pouvoir faire sens de tout ce qui se passe et de tout ce que je sens, mais de l'autre côté, je crois pas que ma fiction en tout cas soit le truc le plus absolument génial pour pouvoir découvrir ça, parce que je pense que ma fiction elle est très opaque, quoi. Et que j'en ai vraiment rien à battre de faire autre chose que ce que je fais, quoi. J'ai pas envie d'être mainstream, j'ai pas envie d'être plus accessible, j'écris ce que j'écris. Si un jour j'écris un truc hyper accessible, tant mieux, je suis hyper contente, mais c'est pas parce que je l'aurais choisi, c'est parce que la forme, le fond demandera cette forme-là, quoi. Et pour l'instant, ça c'est pas arrivé, quoi.
Est-ce que je peux me permettre de te demander de nous lire un extrait?
Alors, il y a deux extraits. Donc, tu veux qu'on je lise un premier extrait, on continue la discussion, puis après j'en lis un autre? Ça peut pas?
Oui, je pense qu'on aura le temps d'un extrait sur les deux.
Alors, lequel? Celui le début ou la baston?
Ah, la baston. Allez.
Bon, ok. Mais il est weird cet extrait, hein, mais je vais quand même le lire. Donc, du coup, c'est la première apparition de François Villon. Je vais le faire debout, excusez-moi. C'est la première apparition de François Villon, fille donc avec ses copains et ses deux mômes, Bzz et Lou, qui sont deux enfants de 12 et 13 ans, je crois. Et ils sont dans un espèce de bar dans les souterrains, c'est pas vraiment les catacombes, mais c'est pas loin, dans Belleville. Ils ont pisté François Villon, qui est un type qu'ils ont vu porter un pompon, là, et qui est un pompon fluorescent qui a été ramené par un canard à trois pattes. Et c'est très important, et donc ils l'ont suivi dans ce truc-là, et puis elle veut récupérer ce pompon, parce que ce pompon signifie quelque chose de très très clair dans sa couture et tout. Bon, je vous spoil pas, mais vous avez exactement ce qu'il faut. Et donc là, elle le voit apparaître pour la première fois. Donc j'y vais. Je bois encore, je m'enroule une, et je le vois émerger d'un groupe de gothiques mous. Il apparaît en messie dans la foule qui l'applaudit, et il grimpe sur un rondin au centre de la pièce, voûté, ses colliers emmêlés sur un col ouvert, des poils mélangés de sueur. Je vous vois, il respire, son micro attaché à un cordon autour du cou, là où pend le pompon phosphorescent. Je suis là, vous êtes là. Nous sommes toutes là, n'est-ce pas ? Consentement. L'audience l'observe tétanisée. Il sourit et se perd dans un instant de grâce, fixant au sol quelques points invisibles. Je remarque les lignes parfaites de ses bras, l'harmonie de couleurs flash, son haut de forme détruit, béant, telle une bouche ouverte. Je crois qu'il pleure. J'ai honte pour nous. Où avons-nous laissé la gloire du matin ? De quelle révolution sommes-nous le nom ? J'ai perdu le chemin, mes sœurs. J'ai oublié qu'il y avait des aspérités dans mon dos, des crêtes. Alors oui, vous me dites, Vigipirate, les barricades, nos provisions, les cartons pleins, les cartons rouges, le ballon. C'est de la poésie, nos luttes. Nous survivons dans un mensonge. Nous pensons avoir gagné, mais la vérité, c'est qu'il n'y a plus de guerre. Toutes les guerres ont déjà été livrées. Le souvenir de nos duels sur le front sont des idées de vie où nous nous drapons, matelas, couettes. On veut des câlins, pas des plaies, et pourtant, regardez, il découvre ses bras couverts de tatous et de cicatrices. J'ai perdu le sens du combat, mais je suis là, avec vous. Il déclame avec ferveur le reste d'un poème insensé. Je me demande quelle drogue il prend. Je me demande comment sont ses matins, dans la panique ou bien la paix. Est-ce qu'il dort comme nous ? J'ai vu sa couche. Est-ce que le costume de lièvre était son pyjama ? Est-ce qu'il est comme ces hommes qui toute leur vie s'habillaient bien pour honorer les songes en ferveur respectueuse pour accueillir les merveilles de la nuit avec sérieux ? Est-ce qu'il sent sous les bras ? Est-ce que ses dents sont creuses ? Et sa queue, elle est comment, sa queue ? Elle n'est probablement pas phosphorescente, mais tordue et poilue, dispersée comme son manteau, ou bien... Quand il a fini, il ferme les yeux et retient sa respiration. Tout le monde a fermé sa gueule, et quand il descend de son arbre, le murmure du bar reprend et lui disparaît dans la fumée. Je cherche en moi un bout de courage. Je pense à ma robe pas finie, à Lou et Bzz dans l'autre salle. Je pense au lièvre qui se lève devant moi sous le plafond penché. Je pense au monde qui accélère. Au ralenti, je me décroche du comptoir, du bras d'un marin qui me veut. Je fends les dos, les corps, le nuage de fumée, la cendre, les regards maquillés. Je le trouve affalé sur un canapé entre deux personnes sublimes sur talons hauts. Il les tripote sans passion, perdu dans quelques vides, loin. Je me pose debout devant lui, je tremble de partout. Il scie. Ses yeux me trouvent, à peine. « Tu me reconnais ?» je dis. « Ne bronche pas. Je suis la sœur de Mehdi. » Il blêmit. Les deux meufs à ses côtés se barrent viteuf. Et je sais que tu le connais. D'un geste léger du menton, il m'invite à m'asseoir sur le rondin en face. Je prends le temps. Le lièvre, c'était toi. Et il boit à sa triple chope. Mornifle. Je sais que tu sais qui est Mehdi, et tout en toi me rappelle lui, mais t'es pas lui, alors quittez. Il hoche la tête, presque un sourire. Il joue avec moi. Qu'est-ce que tu veux ? Alors je me penche à peine, brûlé Euro Disney. Il siffle, puis « Claro que la strada !»« Je parle pas turc !» Il sourit. « Tes cheveux !»« Quoi, mes cheveux ?» Il avance une main tendrement vers ma clé de sol. Je m'attendais pas à ça. Je le laisse faire. « Bon. » Là, je lui prends le poignet et je le tords. Tendrement, hein. « Aïa !» Il hoquette. « Tu foutais quoi dans ce club ?»« Mais Polke te parlera. Parce que sinon, je te brise la main et bonne chance pour te branler. » Hey, soy gauchiste. Ses yeux dévient sur la gauche. En les suivant, je trouve le canard qui me mate férocement les trois pattes dans la sueur. Il va bien me sauter à la gorge et me la déchirer d'un bec plat. Alors je le lâche. Meuf, il dit en se massant la main. C'est quoi ce canard ? C'est ce canard, est un poète. Sur un signe, le canard se met à cancaner. Faux. Et tout le rat de l'accompagne. Dans quelle maison de fou j'ai mis les pieds ? Ton name. Il me demande. Fi. Ah, Sœurette de Mehdi. Pas sa vraie name à Mehdi, eh? Une boule dans ma gorge d'un coup. Comment tu sais ça? Elle me l'a dit. Tu le connaissais alors? Il fait oui de la tête, mais ses yeux disent autre chose. Parle-moi, sinon je te jure que je vais t'éclater la tête là, sur cette table de merde, et la dernière chose que tu verras, c'est ce mensonge qui va te crever les yeux. Elle éclate de rire. Oh, poète ou situé! Et le pompon à son cou brille et flambe de mauve, de violet, d'un bleu électrique profond. C'est quoi, son âme qui s'enflamme et soudain redevient calme? Et toi, comment tu t'appelles? François Villan. Le poète exilé. Elle-même, da. Parle, Villon. D'accord, mais je veux un cheve. Ok. Je sors mes ciseaux de couturière et je vais me couper une des mèches devant. Dans ce geste simple, amer, je prends conscience de la masse qui me coiffe. Ses nœuds dans tous les sens, la frange, le poids. Non, il dit en m'arrêtant la main au poignet, à l'endroit exact où j'avais arrêté le sien. Il déplace lentement mes ciseaux vers la mèche à la clé de sol. Là. Je déglutis. Dans ses yeux, il y a la folie, oui, mais autre chose. Personne ne m'a jamais regardé comme ça. Je me sens minuscule, renvoyé dans un coin de mon atelier quand j'étais toute petite et que j'apprenais à coudre avec toi et grand-mère, sans savoir ce que je faisais. Que toutes mes manches tombaient, que mes bâtis étaient des châteaux de cartes. Quand j'avais l'impression que je n'arriverais jamais à rien et que tu venais me consoler et que tu te drapais dans mes créations et ça t'allait toujours et tu dansais devant moi avec ce corps en mouvement, toujours en mouvement. Et là, dans ce regard, alors que je vais couper ce qui me rattache à toi, ce dernier petit détail, je me mets à pleurer, sans larmes, et je serre les doigts, et je te coupe loin de moi, de mes cheveux. Béné, dit Villon en récupérant la clé de sol tombée dans sa paume. Tous mes cheveux se rebellent à l'idée qu'il leur manque quelque chose. J'ai l'impression d'être devenu chauve. Allore, dit Villon en jouant avec la clé entre ses longs doigts impeccablement manucurés. Alors, je dis en regardant les miens d'ongles, craqués, pleins de terre. J'ai des mains anciennes, antiques. Je me sens tellement vulnérable. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment ai-je pu me retrouver là, à la merci d'un fou? Tu veux savoir quoi? Club 33. Il regarde d'ailleurs. Ah, El Saloon des putas de Bourges. C'était quoi ce club? Un endroit de négociation pour installer le parc en France? Je sais que leur juridiction est privée, mais pourquoi autant de secrets? Ses pupilles scintillent. Pour la première fois, je me rends compte du Véron. Chaque œil différent. L'un pâturage, l'autre tourbe irlandaise. Ce n'est pas un parc. Oui, je sais, pour les geôles. Il se prend de sa passion pour le plafond, pour le lustre en fake cristal dégoulinant de cire de bougies fondues. Laughing place. Je sens mes dents grincer. Elles servent à quoi, ces geôles? Un camp de concentration. Indus muerte. Je suis parti du principe qu'il y avait une prison dans le vaste complexe des plaisirs artificiels du parc. Mais dans ces paroles, j'entends quoi? Que tout le parc tout entier est un dispositif de mort? C'est cela que tu voulais dénoncer, Mehdi? C'est ce qu'il y a dans le zine que je n'ai pas voulu lire correctement? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait là-bas pour que tu te crames en direct devant le pays tout entier? Comment tu sais? Geôle. Ah, tu étais avec Mehdi là-bas dans ces geôles? Il semble distant, perdu dans une réminiscence. Il se gratte l'avant-bras et je vois des symboles tatoués émerger de sa manche sale comme des hiéroglyphes. Supercalifragilisticexpialidocious. Je retiens mes respirations. Pour la première fois, c'est tangible, ce que j'ai sous les yeux. C'est pas mon imagination. C'est un bout de réel qui a été en contact avec toi, que tu as frôlé. Il y a des traces de toi partout sur lui. Parle-moi du mannequin. Toi, t'es une couturas, comme Mehdi. Oui, on a appris ensemble. Il hoche la tête. Ah, ça, c'était sa mannequin, une geôle. Esclavage. Di travau everyday, da fe. Il me raconte comment Mehdi tous les jours était emmené dans une salle de travail dans les souterrains du parc pour faire des costumes, ce qui devait servir à la souris noire pour incarner ses dieux et ses déesses. 20 heures par jour, besognant pour tenir les délais d'ouverture. La punition s'il n'y arrivait pas. Quelle punition? Villon ne répond pas. Il regarde de biais un groupe de mectons en train de jouer au pog contre un mur. Ils se disputent et s'échauffent. Je les entends s'insulter, dans le même jargon, leurs mulets enroulés de rubans de couleurs différentes, la marque de leur appartenance au même gang. Le genre qui joue à Rollmaster en écoutant Hawkwind. C'est qui, je demande. Villon crache, coquillard. T'es avec eux? Il boit sans répondre, s'essuie la bouche du plat de la main. Le pompon à son cou est devenu sombre, pulse. Il me voit le regarder, sourit. Deux canines peintes en noir et rose. I saw solo me,
Cyberpunk Solo. Et toi, comment t'as quitté les geôles ? Il ne dit rien. Tu t'es enfui, c'est ça ? Lâche-moi ! Tu t'es sorti comment de là ? Il y a un passage secret ? T'as creusé un tunnel ? Il fait non de la tête. Putain, dis-moi, j'ai besoin de savoir. Mais tu veux quoi ? Qu'est moi te dire que j'ai mornifle aussi ? Il y a encore des prisonnières là-bas, tu le sais. Tu me dis pas la vérité. Qui a créé ce camp ? Ça vient des États-Unis. Mais ici, ils ont fait quoi ? Tu t'es sorti comment ? Tu pourrais m'aider à entrer sans qu'ils le sachent ? J'ai pas vu les pélicans. Hache-moi ! Quel pélican ? Des coquillards me remarquent pour la première fois. Ils commencent à s'approcher. Deux, trois, et le reste suit, perplexe. Une joie que n'éteint aucune vie, me dit soudain Villon, articulé, clair. Un énorme mastard se pose devant nous, bras croisés. Alors, salaud, t'as couffé ? Villon fait semblant de pas le voir. Il me paraît soudain tout petit, tout minable. Le coquillard se tourne vers moi. Toi, la pute, tu te casses. Alors je me lève direct pour lui faire face, seins devant et mon poing en boule en attente d'une détente. Il me fixe en souriant, mais moi je lui efface son bonheur des lèvres en penchant ma tête sur le côté à peine qu'il comprenne bien sa position. Couche-toi, connard. Il déglutit. Ricky, te laisse pas faire, l'encourage ses potes. Alors Ricky me pousse des doigts, je vais le rétamer, là, direct, et ça va me faire un bien fou de lui décaniller sa mâchoire. Mais une debite douzaine de rigolus font soudain irruption dans le bar. Les coquillards en panique, j'entends des cris partout dans l'autre salle, la masse percute les coquillards, la panique se répand en poudre de rire et de folie, des tristus s'y mettent, c'est tout ce qu'ils attendaient, je recule, je trouve un espace de sécurité quand la grosse bagarre enfle en boule de chaos, je n'ai qu'une pensée, où sont les mômes, je sens l'alarme en moi revenir, l'important, le fondamental, l'essentiel de ma vie, entre leurs mains. Le tourbillon nous encercle, nous envole, je vois les bras se tendre, le sang des bouches en constellation dans le vin, ça va m'emporter. Alors Villon me saisit par la taille, il plonge dans mon cou, mes cheveux. Il dépose un baiser au coin où mon épaule et ma nuque se rejoignent, là où tout frémit, et je le regarde disparaître dans la mêlée, flamboyant d'un crépuscule impossible. Et dans mon ventre, il n'y a que la violence et le besoin absolu d'aller chercher les enfants dans la baston générale. Je ferme les poings, les yeux, je laisse tout envahir et je me sers de colère pour défoncer le premier visage qui traverse mon champ de vision. Et je continue à taper tout ce qui se met en travers de mon chemin vers les enfants. Je suis une flamme qui devient de l'eau, un mouvement qui repte et frappe, l'étale, la joie, la joie.
Merci. Merci beaucoup pour cette lecture, pour cette belle discussion. Je suis sûre que tout le monde va juste avoir envie de passer sa soirée à lire Mais le mode furieux. Merci beaucoup Sabrina.
Merci beaucoup, merci d'être venue.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Sabrina Calvo à l'occasion de la parution de son ouvrage « Mais le mode furieux » aux éditions La Volte. Merci à Naï pour cet excellent conseil de lecture. L'Affranchie Podcast, c'est Soizic Courbet à la réalisation et Camille Cario à la post-production et au montage. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchie Podcast.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, I'm Guy Raz, and on my show, Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers.
There's lots of ways to measure success.
Sometimes a company has to bet against itself.
We wanted to set ourselves apart by having a point of view.
Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways.
On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.